Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jour 5 de mon défi pour apprendre 100 mots d'espéranto.
Garçon, c'est knabo. Parce que ma mère, elle disait à mes frères que c'était des nabos. C'est bon.
Sébastien Martinez, mon coach en mémoire, m'a fait télécharger un logiciel pour réviser le vocabulaire. En gros, il m'affiche aléatoirement, en français ou espéranto, un mot que je suis supposée connaître.
Jaro, c'est l'année. Parce que j'imagine un calendrier avec Jared Leto.
Tant que je me trompe, le logiciel le répète régulièrement. Ça marche super bien.
Dîner. Ah oui, c'est... Chef Mango. Chef Mango. Presque. Je vais mettre dans « à revoir ».
J'en suis à une soixantaine de mots appris avec une aisance qui me déconcerte. Mais est-ce que cela fait vraiment de moi, Lady Memory ?
Devenir Lady Memory, épisode 3. Rester sérieuse.
Après avoir discuté avec un coach en mémoire, Sébastien, et une personne synesthète, Alex, je me suis dit que pour le sérieux de cette série, je me devais de rencontrer un neurologue.
Alors le neurologue, c'est le médecin qui s'occupe du système nerveux, c'est-à-dire tout ce qui part du cerveau, qui descend ensuite dans ce qu'on appelle la moelle épinière, puis qui va ensuite circuler dans les nerfs. Et donc, il y a tout un tas de neurologues différents qui sont spécialisés pour différentes maladies.
Stéphane Eppelbaum est un neurologue spécialiste de la mémoire. Je le rencontre sur son lieu de travail.
Là, nous sommes dans l'Institut de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer, qui est un centre clinique dans lequel on reçoit des patients atteints de troubles de la mémoire et on recherche chez eux des maladies neurologiques comme la maladie d'Alzheimer ou d'autres maladies apparentées.
Est-ce que ça veut dire que toutes les personnes qui viennent ici sont atteintes d'Alzheimer
ou alors, non, pas du tout. La plupart des personnes qui viennent nous consulter ont avant tout des problèmes de mémoire qui sont d'ordre attentionnel. C'est-à-dire que se plaindre de sa mémoire n'est pas synonyme de maladie neurologique, fort heureusement. En fait, la mémoire... c'est une fonction cérébrale qui est assez fragile et qui peut être altérée dans tout un tas de situations, comme par exemple une dépression ou alors une grande fatigue, tout simplement, hein, ce qu'on appelle le burn-out aussi. Et puis, avec tout cela, il y a aussi, bien sûr, des maladies neurologiques comme la maladie d'Alzheimer.
À quel moment, quand on a des troubles de la mémoire, doit-on commencer à s'inquiéter ?
Je pense que ce qui doit alerter, quand on a des problèmes de la mémoire, c'est surtout l'entourage. C'est-à-dire qu'une personne qui a l'impression d'avoir des problèmes de mémoire, paradoxalement, c'est moins inquiétant qu'une personne qui se plaint légèrement seulement et dont l'entourage, lui, est inquiet. Parce que, si vous voulez, dans les maladies de la mémoire d'origine neurologique, il y a des lésions dans le cerveau qui empêchent la personne de prendre conscience de ses troubles.
Je sais que le QI est parfois critiqué, mais on l'utilise quand même pour noter une certaine forme d'intelligence. Est-ce qu'il y a un système de notation similaire pour la mémoire et comment marche-t-il ?
Oui, c'est vrai. On a des tests qu'on pratique, par exemple, dans notre centre, à l'Institut de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer. Ils ont été proposés à des dizaines ou des centaines, parfois, de personnes, entre guillemets, normales, c'est-à-dire qui n'avaient pas de maladie particulière sur le plan neurologique. D'avoir proposé ces tests à ces personnes normales, ça a permis d'en déduire ce qu'on appelle des normes, c'est-à-dire les valeurs qu'on est en droit d'attendre d'une personne d'un certain âge, d'un certain sexe et d'un certain niveau d'études. Ces différences hommes-femmes étaient surtout importantes à une époque où les femmes avaient moins d'accès aux études. Et donc, c'est vrai que ça, par contre, le niveau d'études va modifier sensiblement les résultats qu'on peut obtenir au test. C'est plus un biais qu'une réelle différence. Après, il y a une littérature qui est assez abondante sur les différences qui existent en termes de cognition entre les hommes et les femmes. En général, ce sont des différences qui sont assez minimes et qui, du point de vue clinique, en tout cas, n'ont pas de pertinence particulière pour diagnostiquer telle ou telle maladie.
On entend souvent l'expression que la mémoire est un muscle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, qu'elle peut s'améliorer et aussi reperdre ?
C'est un peu simpliste, mais c'est pas faux fondamentalement. Moi, je pense que c'est surtout l'attention qui est un muscle plus que la mémoire. Et l'attention peut s'entraîner. Alors, il y a des façons d'entraîner son attention. Les coachs de la mémoire vous en parleront. Et puis, il y a des nouvelles pratiques également qui semblent émerger et qui semblent être vraiment bénéfique pour ce système attentionnel. Je parle en particulier de ce qu'on appelle la méditation. Alors en fait, ce qui change de la méditation ancestrale, qui est pratiquée par les bouddhistes notamment depuis plus de 2000 ans hein, maintenant, mais ce qui a changé ces dernières années, c'est un courant laïque de méditation et un courant laïque et scientifique, je dirais, tant sur l'aspect attentionnel, c'est-à-dire le fait de muscler son attention, que sur des aspects psychologiques, le fait de réduire son taux d'anxiété ou les rechutes dépressives, par exemple.
Est-ce qu'on connaît une limite à la mémoire ? Est-ce qu'on sait ce qu'un cerveau humain peut apprendre au maximum ?
Je pense qu'on peut dire qu'il n'y a virtuellement pas de limite au système de mémorisation. En pratique, c'est pas si vrai que ça. C'est-à-dire que on peut emmagasiner une quantité folle d'informations. La difficulté, c'est de restituer ces informations. Et en fait, le cerveau est constamment en train de faire de la place, notamment, par exemple, pendant le sommeil. Mais virtuellement, on peut engranger une très très grosse quantité d'informations, comme le montrent, par exemple, les champions de la mémoire.
Il faut savoir que
Sébastien Martinez.
Les records, bon, ils évoluent très vite, mais en ce moment, le record de nombre de chiffres mémorisés en 5 minutes, il est autour de 580 chiffres.
Au cours d'une vie, y a plusieurs éléments qui vont influencer la mémoire. Il y a tout d'abord son patrimoine génétique. Alors là, on ne peut pas y faire grand-chose. Et puis après, parmi les éléments positifs, il y a l'éducation et la lecture. Il y a également l'activité physique et sportive. Parmi les facteurs négatifs, on a justement tous les troubles du sommeil. Il y a également la consommation des substances négatives comme l'alcool ou d'autres substances, des facteurs qui sont plus difficiles à prendre en considération, comme par exemple un traumatisme crânien ou des troubles anxieux ou des troubles dépressifs. Et donc, in fine, c'est vraiment un ensemble d'éléments qui va permettre d'avoir la mémoire la meilleure possible, le plus longtemps possible, pour peu qu'on passe à côté des accidents de la vie. Mais même dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à se faire aider parce qu'il y a toujours un espoir de réaméliorer sa mémoire ultérieurement. Pour finir, je dirais que la mémoire, c'est à la fois un trait qui est vraiment merveilleux et qui caractérise l'être humain, à mon avis, mais qui est également très fragile et dont il faut prendre soin. Et ce que je dirais, c'est je pense qu'il faut vraiment en prendre soin le plus tôt possible dans sa vie.
J'ai envie de prendre soin de ma mémoire et de mon attention. Entre ma surutilisation des écrans et ma vie à mille à l'heure, j'ai l'impression de ne plus être capable de me poser pour apprendre. Je profite d'un appel avec Sébastien Martinez pour approfondir ce sujet. Est-ce qu'il y a un bon moment dans la journée pour apprendre ?
Il n'y a jamais vraiment de bon moment. C'est le problème quand tu commences une nouvelle activité, donc c'est mettre en place une nouvelle habitude. Trouver un moment dans la journée qui te paraît le plus à l'aise, où tu te dis tiens, ça peut facilement se greffer là, et commencer petit. Commencer par un truc qui dure 5 minutes ou 10 minutes et monter à chaque fois peut-être d'une minute à chaque fois. Parce que quand tu commences une activité, non, mais là, j'ai pas le temps, il faut que je fasse ça, ça, ça. Et si tu te dis, ah, mais non, j'en ai que pour 5 minutes, allez, ok, je vais prendre ces 5 minutes. Et ce qui se passe souvent, c'est que des fois, au bout de 5 minutes, tu as envie de continuer, donc tu continues un peu, ou alors tu t'obliges à t'arrêter, ça te frustre et ça te permet de revenir avec plus d'énergie la fois d'après.
La suite,
au prochain épisode. Devenir Lady Memory est une série de podcasts 100% réalisée et autoproduite par moi-même, Anne Perry. Illustration par Léa Castor. Merci à Sébastien Martinez pour sa confiance sur ce projet. Et si vous voulez m'aider à grandir, mettez-moi 5 étoiles et postez des commentaires sur Apple Podcasts. Ici Anne Perry, et je vous embrasse.